puisque vous écoutez, puisque vous parliez du voile, tiens, on a une nouvelle séquence qui s'appelle 20-27. Vous aurez compris que ça a trait à la prochaine élection présidentielle. Je voudrais qu'on la regarde ensemble, justement, ça permettra de répondre à votre débat il y a un instant. Ensuite, ce sera le signé consigné.
C'est l'idylle que l'on n'attendait pas. Un ancien ministre chiracien, une figure de la gauche sociale, qui s'adonne à un concert de louanges.
François Ruffin, il a le mérite de se coltiner le réel et de vouloir réparer les choses.
Dominique de Villepin, c'est un nom qui, une voix qui porte du panache et qui fait vibrer.
Et moi, je me nourris des propositions que François Ruffin fait.
2 heures de débat visiblement fécond.
C'est aussi une salle de mariage.
Oui, ben, formidable.
Je ne sais pas ce qu'on va en conclure, mais bon, c'était la
on ira salle de mariage jusque-là.
L'amour de la République, ce n'est pas être d'accord sur tout, mais regarder dans la même direction. Pourrait-on assister à une alliance Ruffin de Villepin pour 2027?
C'était, je dirais, un premier rendez-vous Tinder. On était là pour se renifler et on voit qu'on a des choses à partager.
Les Français ont-ils envie de renouer avec leur ex? François Hollande, en tout cas, veut y croire.
Vous trinquez à quoi, monsieur le Président?
On boit à tous ceux qui vont fêter quelque chose. On verra quoi.
Mais ne vous méprenez pas. Pour l'instant, il n'est pas officiellement un prétendant à l'Élysée.
Il n'y a plus qu'à suivre.
Ça suivre quoi, monsieur?
Ben, vous êtes en campagne?
Mais chaque fois que je viens à la foire de Chalon, je ne suis pas toujours en campagne. Il y a des années, la permanence, le livre. Il faut attendre. Il faut trouver le bon moment et être utile au bon endroit.
Hein. Est-ce une façon de se faire désirer?
Vous avez déjà dit l'année dernière.
Ah bah alors, on n'a pas changé.
Eh ben non, du tout.
Vous avez même rajeuni.
Mais peut-on raviver la flamme, monsieur le Président, quand on laisse une impression de déjà-vu? En amour toujours, le candidat LFI nous apprend une autre leçon. Il faut parfois reconnaître ses torts pour la paix des ménages.
Moi, je ne vais pas faire le malin. Il y a 20 ans aussi, je n'étais pas d'accord avec cette histoire de voile. Je n'avais pas compris. Mais que fait une personne sensée au bout d'un moment? Ben, vous parlez. J'ai rencontré des femmes qui portaient le voile. J'ai été convaincu. Et j'ai changé d'avis. Je me suis dit, j'ai fait une erreur terrible.
Il y a 10 ans, le patron des Insoumis qualifiait encore le voile de signe de soumission.
Je suis opposé à tous les signes religieux et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête.
Dites-nous, monsieur Mélenchon, votre mea culpa n'est-ce pas plutôt une offensive de séduction électorale?
Nous sommes avec Paul Vannier, député de la France Insoumise du Val-d'Oise. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant la discussion avec Charles Consigny, mais à culpa sincère ou électoraliste?
Écoutez, je comprends que vous soyez choqué, un homme politique qui réfléchit, un homme politique qui discute avec les premiers concernés, je comprends que ça surprenne, mais c'est en effet l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Et puis je voudrais insister sur une chose, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours eu un propos républicain, un propos qui consistait à traiter de la même façon, sur le plan du respect du principe d'égalité, tous les citoyens, tous les citoyennes de notre pays, quelle que soit leur confession religieuse, y compris s'ils n'en ont pas d'ailleurs, puisque la liberté de culte, c'est un principe qui découle de la liberté de conscience. C'est ce qu'il a toujours défendu. Et aujourd'hui, oui, face à la montée de l'islamophobie, face aux violences islamophobes, face au déferlement de haine qui cible nos compatriotes musulmans et musulmanes, nous assumons, nous sommes du côté de celles et ceux qui sont victimes de racisme et nous le serons chaque fois que nécessaire. C'est malheureusement le cas en cette rentrée politique.
Charles, le mea culpa sincère de Jean-Luc Mélenchon à quelques mois du scrutin présidentiel?
Ce qui est très intéressant, c'est que ça montre en fait l'évolution de Mélenchon et le fait qu'il, malheureusement, très classiquement, comme beaucoup de responsables politiques, il adapte son discours à l'électorat qu'il essaye de cibler. Moi, je pense que Mélenchon...
C'est cynique?
Oui, complètement. Moi, je vais vous dire, je pense que Mélenchon est moins à gauche qu'il s'en donne l'air. Sans doute moins à gauche que vous et moins à gauche que beaucoup de gens dans son parti. Je pense que c'est un sénateur socialiste, républicain, probablement franc-maçon, qui est dans un rôle de composition.
Dans
sa conception de la laïcité, qui à mon avis est sa conception profonde, il était plutôt opposé au voile islamique. Mais maintenant, comme il regarde les chiffres et qu'il se dit que, somme toute, il a, je crois, aux dernières élections, il a, je crois qu'il y a eu près de 80% des Français musulmans qui ont voté pour lui. Donc, il se dit, bah, ce serait quand même con de les perdre. Et donc, il change de braquet, de même qu'il gauchise beaucoup son discours pour gagner le match à gauche. Voilà. Pour moi, il fait 100% de la politique. Mais je vais vous dire, c'est presque rassurant puisque je pense qu'il est moins à gauche qu'il s'en donne l'air.
Monsieur Consigny, je me permets cette question. Est-ce que vous êtes musulman?
Non.
Est-ce que vous vous sentez concerné par la défense des libertés fondamentales, la liberté de conscience, la liberté de culte?
Ah, mais moi, je ne suis pas opposé mais au port du voile dans l'espace public. Donc, je ne soutiens pas cette mesure visant à l'interdire.
Eh bien, donc, je crois que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et vous comprenez ainsi que Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Il s'adresse à toutes celles et ceux dans notre pays qui sont attachés aux principes républicains. Il fait face à un parti, le Rassemblement National, qui a décidé d'entrer dans la rentrée politique à travers la défense d'une mesure extrêmement violente qui vise à stigmatiser des millions de nos compatriotes et qui peut provoquer la violence. Donc, vous voyez, M. Consigny, je crois que vous êtes au fond plus proche de Mélenchon que vous ne le pensez.
Non, si. C'est très bien. Si. On est tous. Non, je pense que quand il parle des tout blancs, tout moches, par exemple, il n'est pas tout à fait dans la République et dans les principes républicains. Quand il fait des jeux de mots sur des noms de famille à consonance juive, il n'est pas tout à fait dans la République.
Vous savez qu'il n'en a jamais fait.
Oh, bah, Glucksmann, Epstein, Epstein.
Vous savez.
Comme par hasard, c'était pas Durand et Robert, hein. Bon. Donc, moi, je pense que.
Mais vous savez que sur ces questions de prononciation.
De l'électoralisme chacun
prononce à sa façon un certain nombre de noms propres. Et je veux revenir au fondamental. Là, vous êtes dans l'insinuation. Jean-Luc Mélenchon est un républicain. Il a toujours défendu, et souvent seul et assez isolé, des principes structurants de notre vie publique, de notre démocratie. Le principe de laïcité, par exemple, qui est mis en cause aujourd'hui directement par le Rassemblement National.
Et par l'islam politique.
Oui, bien sûr, évidemment, par toutes celles et ceux qui veulent porter atteinte au pacte républicain. Mais en cette rentrée, M. Consigny, constatez comme moi que si,
la laïcité.
Je crois que si, justement.
Ah bon?
Parce que la laïcité, c'est aussi la liberté de
vous
croire.
Vous êtes élu de quelle circonscription?
Du Val d'Oise, d'Argenteuil, de Beson.
Bah, vous vous baladez un peu quand même là-bas.
Oui.
Bon, les burkas, ça remet pas en cause la laïcité?
J'en ai pas vu.
Les barbes de trois jours, les djellabas.
Ah, vous voulez maintenant réglementer la taille des barbes?
Bah oui, je suis très pragmatique.
Je ne suis pas
dans les postures, moi. Je suis très pragmatique.
Ah, mais vous n'êtes pas dans la laïcité.
Et quand je vais dans certaines villes.
Ah, là, il est dans la. Là, vous êtes dans
le racisme?
Bah, vous êtes dans une pente. Mais très dangereuse. Parce que si vous commencez. Si vous commencez à mesurer les barbes.
Avant d'aller dans cette pente.
À mesurer les vêtements. On va rentrer dans un autre monde, monsieur Consigny. Dans un monde autoritaire. Dans un monde de privation de liberté. Je ne veux pas pour mon pays.
Que vous considériez que c'est une mauvaise.
Parce que je ne veux pas que vous me disiez quelle taille de barbe j'ai le droit de porter, moi aussi.
Je suis un Français patriote. Je me fiche complètement des conséquences de ce que je peux dire. Je vais dans certaines villes d'Île-de-France, dans certaines villes en France. Je vois effectivement des gens qui, manifestement, adoptent les codes vestimentaires, les modes de vie, un certain ethos, si vous voulez, qui les met en rupture avec
c'est
la
du
société
séparatisme.
Française, qui pratique le séparatisme, absolument, le communautarisme.
C'est ce que vous dites qui est en rupture avec la société
française. Je suis désolé de vous dire que, quand je vois ça, ça, c'est une atteinte à la laïcité. Non. Effectivement, de même que l'abaya à l'école, que le jeune Attal interdit, l'a très bien fait, c'était une atteinte à la laïcité. De même
la laïcité,
que la burqa,
la liberté.
C'était une atteinte à la laïcité.
Je vous croyais plus attaché à cette valeur.
Et heureusement qu'on essaye de légiférer un peu. En revanche, le voile lui-même, se mettre juste un fichu sur la tête, etc., moi, ça me paraît en fait impossible sur le plan légal à interdire. Mais ça ne veut pas dire que je suis complaisant avec ces vraies atteintes à la laïcité. Je suis désolé, RN qui porte atteinte à la laïcité.
Mais vous dites ce que vous voulez. Et c'est bien ce qui fait de notre pays un pays de liberté. Et c'est à ça que moi, je suis attaché. Je suis attaché à la liberté
faudra le dire à Charles
de
Sapin,
conscience,
ça, alors.
De culte. Et je suis attaché à ce que les croyants puissent exprimer leur foi, leur appartenance religieuse, à travers des vêtements, à travers des symboles. Parce que si vous commencez à remettre en cause.
Oui, mais les symboles veulent
le
dire
voile,
quelque chose.
La barbe, et c'est toujours les mêmes que vous visez
burqa,
d'ailleurs
par exemple,
dans
vous
cette liste.
Contre les... Bah oui, parce qu'excusez-moi, la petite jupe plissée à Versailles, attendez, c'est pas exactement une atteinte à la laïcité.
Derrière, il y en aura d'autres qui diront la kippa. Il y en aura qui diront la croix. Il y en aura qui voudront remettre en question la possibilité pour les uns ou les autres de manifester, d'exprimer leur religion.
Mais vous étiez contre l'interdiction de la burqa?
Mais pourquoi ne l'étions-nous pas? Parce que la burqa, elle est interdite aujourd'hui, parce que la portée porte atteinte à l'ordre public. La dissimulation du visage pose une difficulté pour pouvoir reconnaître les gens. Tout ça n'a rien à voir avec une manifestation d'une foi.
C'est une façon,
strictement rien à voir.
On trouvait un biais pour l'interdire, mais de la même façon, que derrière, c'était pas ça qu'on voulait.
Il est aussi interdit d'être nu dans l'espace public parce que cela trouble l'ordre public. Donc, vous voyez, il y a évidemment des limites qu'il ne faut pas franchir et il faut un cadre dans lequel les libertés,
un projet politique,
liberté s'exprime. Et c'est à ça que moi je suis attaché, à la liberté. Et nous la défendrons. Peut-être seul, contre tous, c'est possible. Mmh. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, nous défendons les libertés dans cette campagne, là où elles sont remises en cause. Toutes celles qui sont fondamentales.
Je veux rappeler que, on va en parler avec plaisir,
mais je veux rappeler que la liberté de conscience et de culte, elle est dans notre constitution.
Oui. On aura le droit d'être musulman, mais on ne pourra pas gagner sa vie.
Ce sont des acquis. Oh, je vous ai connu plus subtil, plus fin, plus précis.
Je suis désolé, c'est à peu près ça, le mélenchonisme.
Et plus précis. En tout cas,
on sera tous pauvres, mais on pourra aller prier.
On pourra à la fois exprimer une conviction religieuse, ne pas le faire quand on le veut, et on pourra librement s'engager dans le monde économique aussi. Monsieur Consigny, soyez rassuré, avec Jean-Luc Mélenchon, tout va bien se passer.
La liberté d'expression, vous la garantissez?
Évidemment.
On a le droit d'être journaliste de droite à Radio France, par exemple.
Alors, vous voulez faire référence à Charles Sapin, qui est à la tête d'un journal d'extrême droite, condamné pour racisme.
Il n'est pas à la tête du journal, non.
Il est numéro 2. Du journal, ça. Celui qui est à la tête, c'est Monsieur Dacier, c'est ça? Lui-même ayant été condamné pour racisme, il me semble.
Pas Dacier,
En tout cas, ce journal a été condamné à de multiples reprises.
Il n'y était pas à ce moment-là.
Attendez, il a été condamné. Ça n'est pas rien de rejoindre une rédaction, un journal condamné pour incitation à la haine raciale. Peut-être que vous le feriez. Peut-être que vous ne le feriez pas.
Peut-être que vous rejoignez pour le changer aussi. C'est possible, non?
Je ne le crois pas. Ah bon. Parce que quand
l'humanité soutenait Staline, l'humanité ne soutient plus Staline. Il a changé.
Là, à mon avis, toutes les comparaisons ne sont pas raisonnables. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de montée de l'extrême droite, avec cette condamnation qui est récente, faire le choix de rejoindre une rédaction comme celle-là, c'est un choix qui est marqué. C'est un choix qui dit quelque chose. Ça n'est pas un choix neutre.
C'est
sa liberté de s'engager dans cette rédaction. C'est aussi la liberté de vos confrères de France Inter de le refuser. Je crois que vous respectez le fonctionnement des rédactions, le débat qu'il peut y avoir dans des rédactions.
Aussi beaucoup la liberté
d'expression. Une liberté qui est celle du droit de grève. Elle va s'exprimer et nous verrons.
Non. Et c'est normal que les politiques s'en mêlent.
Vous m'interrogez sur le sujet.
Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon intervenir.
Bah, c'est un sujet d'intérêt général, je crois. Il n'est plus possible de questionner, de critiquer le fonctionnement des médias.
Vous
m'interrogez. Vous voyez, vraiment, je crois que je suis du côté, moi, des libertés.
Non, parce que là, on parle du service public. La liberté. Et un jour, vous aurez peut-être des responsabilités importantes.
La liberté.
Ça dit peut-être quelque chose de la façon dont vous gérez les médias publics.
La liberté d'expression, puisque vous me questionnez dessus, c'est aussi pouvoir critiquer certains choix.
Il n'y aura pas de liste de journalistes interdits si vous êtes au pouvoir.
Moi, ça m'amuse. Par
exemple, il y aura des listes de journalistes interdits quand vous serez au pouvoir.
Il y aura une loi à respecter. Quand il y aura des reportages, des caricatures qui seront par la justice considérées comme racistes, il faudra des condamnations.
Vous interdiriez un journal comme Valeurs Actuelles?
Non, je ne le crois pas.
Vous
fermeriez? Sauf si la justice, ce serait à la justice d'en décider. Si ce journal enfreignait la loi, bien sûr qu'il devrait être durement sanctionné. Il l'a déjà été, et peut-être qu'une récidive devrait conduire à des condamnations plus graves.
Ouais, fermeture.
Il diffuse assez peu, d'ailleurs.
On est au cœur d'un sujet très intéressant et très actuel, qui est que, au fond, la gauche est en train de perdre son magistère sur le monde des idées et le monde politique en France. Pendant des années, c'est la gauche qui décidait de ce qui était autorisé, ce qui l'était pas, de ce qui était raciste, ce qui ne l'était pas, de ce qui était républicain, ce qui ne l'était pas, etc. Et la gauche, d'ailleurs, souvent depuis l'antenne de France Inter, décernait ses bons et ses mauvais points. Et là, ce qu'on voit, c'est que votre truc marche plus. Et quand on vous dit que l'humanité, effectivement, a fait du chemin après avoir soutenu Staline, vous, tout de suite, votre réflexe, c'est de dire, comparaison n'est pas raison.
Celle-là me paraît complètement...
Valeurs Actuelles, aux dernières nouvelles, n'a pas soutenu l'Allemagne nazie. Hein? Bon. Alors que l'humanité, effectivement, a soutenu Staline. Donc, comparaison n'est pas raison. Je sais pas si la comparaison est vraiment au bénéfice de la gauche dans ce cas-là.
On est en 2026, on est d'accord.
Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours une complaisance.
Ça a été un peu plus long que ça.
Il y a une complaisance pour l'extrême gauche. D'ailleurs, vous-même, vous êtes des.
France Inter, c'est l'extrême gauche maintenant.
Non, bah, d'abord, beaucoup, effectivement, le sont, mais vous-même, monsieur Vannier. Franchement. Monsieur Vannier, vous oui. êtes d'extrême gauche.
Ah, ça, c'est d'après monsieur Nunes. Non, et vous êtes probablement d'accord avec lui. Mais ça, vous êtes engagé politiquement, vous êtes situé politiquement.
Moi, j'ai rien à voir avec une famille politique
qui a soutenu le gouvernement. Donc, je comprends que vous repreniez les qualifications de monsieur Nunes. Mais moi, je considère être un militant de gauche.
Je pense que le seul moment.
Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, lui, est le candidat de la gauche dans cette campagne présidentielle.
Un regard bienveillant sur les gouvernements de Macron, c'est peut-être les deux semaines où il y a eu Barnier, parce que j'aimais bien son style.
Vous voyez?
Mais c'est peut-être, peut-être le seul moment. Sinon, on peut pas me soutenir.
Et Barnier n'était pas macroniste.
On peut c'est pas déjà me suspecter beaucoup. De les c'est avoir soutenus. Donc, vous-même, vous êtes d'extrême gauche. Néanmoins, vous êtes tout à fait bien traité partout. Pourquoi? Parce que vous êtes d'extrême gauche et non pas d'extrême droite. Et donc, il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Moi, je m'en fous un peu, à vrai dire. Et j'aimerais bien, justement, qu'on sorte de ces extrêmes.
Finalement, est-ce que voter Mélenchon aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'envoyer le Rassemblement national au pouvoir?
Ça va pas vous faire plaisir, mais là, c'est vrai. Je pense que Marine Le Pen, je sais pas comment elle va faire d'ailleurs, peut-être qu'elle va envoyer en masse ses militants voter Olivier Faure à la primaire du Parti Socialiste. Mais je pense qu'évidemment, sa seule chance d'être élue à coup sûr, parce que le seul contre lequel elle est certaine de gagner, c'est contre Jean-Luc Mélenchon.
C'est déjà écrit d'avance. Mais passons-nous de la campagne.
Je le dis rarement. Puis,
puisque vous l'avez dit, elle va gagner, c'est sûr et certain, monsieur Consigny.
Là-dessus, monsieur Vannier. Ouais. Vous savez, j'ai du respect pour Mélenchon, pour tout ce que vous faites, pour cette force politique qui est la vôtre. Je suis venu d'ailleurs débattre une fois aux universités d'été de la France Insoumise, j'ai vu l'organisation, j'ai du respect pour vous. Je me hasarde rarement à dire que les campagnes sont écrites d'avance.
Je pense que ça l'est.
Oui, ça, je suis prêt à prendre les paris. Je vous le dis sans arrière-pensée, vous allez avoir un problème, c'est que si un candidat de gauche modérée, à peu près câblé,
qui ça
sort Hollande ou Glucksmann.
François Hollande, la gauche modérée?
Hollande ou Glucksmann, oui.
Hollande, il est là.
Vous allez avoir une difficulté, c'est qu'ils vont dire voter Mélenchon, c'est voter Le Pen. Et je sais que ça va être compliqué à gérer.
Ce que j'ai entendu, c'est que François Hollande a déjà indiqué qu'il voterait pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'un second tour face à Marine Le Pen. François Hollande, il me paraît là pour autre chose que de battre Marine Le Pen, il me paraît là pour finir le travail, pour définitivement enterrer le Parti Socialiste. Nous nous sommes engagés dans une bataille pour gagner l'élection présidentielle. Nous avançons, notre campagne étant dynamique, elle est aujourd'hui celle qui occupe tout l'espace, je crois, à gauche, et nous avons encore beaucoup, monsieur Consigny, vous allez le voir, de marge de progression dans cette campagne. Jusqu'au premier tour, nous sommes en situation de nous qualifier au second tour, et je crois que nous sommes en situation d'emporter le deuxième tour. Je voudrais juste vous dire
quelque chose. Mais comment? Parce que pour l'instant, c'est parce que démontre les sondages, Jean-Luc Mélenchon est moins bien placé pour battre
Le Pen. Vous me parlez des sondages. J'y accorde peu d'importance.
Oui, mais vous les regardez aussi.
Ils nous sous-estiment, mais je les regarde. Je vais vous parler du dernier, le cluster 17 de cette semaine. Au deuxième tour, il dit 60-40 Mélenchon-Le Pen. C'est pas fait, hein. Mais avant les vacances, c'était 75-25. Donc vous voyez, ça avance. Et contrairement à ce que vous pensez, monsieur Consigny, qui 8 mois avant jouait le devin, moi je crois qu'il y a une campagne à mener. Je crois que les Français y regardent, ils écoutent. Et quand ils voient le danger que représente le camp de Marine Le Pen, quand ils voient les députés de Le Pen défiler sur les plateaux pour appeler à arracher le voile de nos compatriotes, je pense que les gens, vous voyez, ils se disent que cette violence-là, ils n'en veulent pas et qu'ils sauront faire le bon choix. J'en suis convaincu.
On en prend toute la journée dans Paris quand on se déplace en
scooter. Pas parce que vous portez la cravate, monsieur Consigny.
Il n'y a pas besoin de porter le voile pour prendre des amendes.
Pas parce que vous portez une chemise blanche et une veste bleue.
Et on m'arrache pas mon casque de scooter encore. Mais en revanche, on m'arrache mon argent, ça c'est vrai. Vous pouvez dire ça. Et effectivement, vous êtes en dynamique, etc. Moi, je vois d'ici la stratégie de Mélenchon. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour la comprendre. Il essaye d'assécher la gauche en étant très à gauche. Et quand il n'y aura plus de candidats à gauche, tout à coup, il va devenir ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire, en fait.
Il va redevenir le Mélenchon qu'on a connu.
Bien sûr, un homme de centre-gauche, républicain, assez détendu, etc. Sauf qu'il aura autour de lui.
L'extrême gauche.
Sa bande, c'est-à-dire vous, Madame Guettet, qui veut qu'on prenne un congé quand on a un ami.
Incroyable.
Monsieur.
Scandaleux.
Bah oui.
À la mort d'un ami, prendre un congé, quel scandale.
Oui,
scandale.
Oui, que ce soit écrit dans le droit, oui, je pense que c'est débile, bon. Même, je vais vous dire. Je trouve son livre complètement débile.
Vous
je lui ai dit, d'ailleurs.
À l'acquisition de nouveaux droits.
Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Et ça va pas aider Mélenchon, d'ailleurs.
Je crois que si.
Ce genre de choses. Mais moi, je vous raconte une anecdote qui m'a quand même intéressé. C'est que, alors, ça a la même valeur quasiment qu'un sondage. Récemment, j'étais dans une assemblée de gens hétéroclites à un anniversaire. Il y avait une jeune femme bobo, une de ces parisiennes installées nouvellement en province pour y faire
du télétravail. Les gens vous fréquentez.
Pour y faire du télétravail. Absolument, quelqu'un de ma famille même. Elle va voter Mélenchon.
Très bien.
Elle a grandi avec une cuillère en argent dans la boule. Elle va voter Mélenchon.
Ouais.
Tous ses copains vont voter Mélenchon. Elle était là, il y avait des gens de tous les âges et de tous les milieux. Et elle s'attendait à ce que tout le monde, sur le ton de l'évidence, dise « Ah bah moi aussi, je vais voter Mélenchon ». Et tout le monde a dit « Ah bah non, en cas de second tour RN-Mélenchon, on votera RN ». Et c'était à peu près 9 personnes sur 10. Et c'était pas du tout, on n'était pas à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, hein, je peux vous le dire. C'était
d'accord. Bon. Mais monsieur,
donc, voilà, pardon, ce que je vais vous dire,
si sur les plateaux de BFM, vous faites des pronostics à 8 mois sur la base de vos soirées, je suis pas sûr que les téléspectateurs vont être très, très éclairés. Je voudrais juste vous rappeler une chose qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu 27 sondages sur 27 qui disaient que le RN allait gagner les élections législatives. Vous vous rappelez, il y a 18 mois. Ils ont perdu. Ils ont perdu l'élection.
En un mot, moi, ce que je vois, j'ai justement à cette occasion consulter le programme, et je termine par là, de la NUPES et ensuite de, je sais plus comment ça s'appelait, le Nouveau Front Populaire. Et je vous ai trouvé quand même très gonflé à gauche de nous mettre un flingue sur la tempe en disant c'est soit nous, soit les fachos, avec le programme que vous aviez. Parce que votre programme, il est facho. C'est un programme de facho de gauche. Moi, j'ai pas voté. Ah, je n'ai pas voté. Vous savez, j'habite un arrondissement du centre de Paris dans lequel il y avait zéro chance qu'un candidat que j'aime bien soit élu. La Macronie a totalement inondé tout le truc. Bon. Mais, donc ça m'intéressait pas d'aller voter. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas mettre un flingue sur la tempe des gens en leur disant c'est soit nous, soit les fachos, avec un programme qui est vous-même un programme, je trouve, de fachos de gauche. C'est ça que je veux dire. Je trouve que la gauche joue un jeu dangereux.
Je peux pas répondre à l'outrance de la formule qui est faite pour choquer. Est-ce que je peux juste vous dire sur le programme? Notre programme est un programme de rupture, il s'assume. Mais regardez les crises que traverse le monde et notre pays en particulier. On sort d'un été qui est catastrophique, des gens sont morts. Leurs maisons ont brûlé. Regardez la gravité de la situation sociale. Il y a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. L'Ukraine, le Proche-Orient, la 5e République, elle est à bout de souffle. On va entrer dans un débat budgétaire. Il n'y a pas d'issue. Il faut des solutions de rupture. C'est ce qu'on propose. C'est ce que d'autres programmes proposent. Des solutions pour répondre aux problèmes concrets de la vie des gens, monsieur Consigny. Alors, vous, peut-être que dans votre arrondissement central de Paris, peut-être que vous êtes assez indifférent à ces enjeux.
Ah, mais non,
moi, je suis convaincu d'une chose, monsieur Consigny.
Pas du tout.
C'est que ces propositions, elles font pas peur. Ces propositions, elles sont vitales pour des millions
mais
de nos compatriotes
moi, je pense
pour
que, par
lesquels
exemple,
2027 est une question de vie ou de mort par certains aspects.
Pour acheter des Canadair, il faut pas gaspiller l'argent public.
Arrêtez de soutenir
avec votre Paul Vanier, on n'aurait pas beaucoup de Canadair.
Merci Paul Vanier, merci Charles Consigny.